Welcome has
minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Bonjour.
Alors nous sommes le vendredi 24 juin 2022 et il est midi 30.
Et vous êtes bien sûr à Radio Galère à Marseille et puis on est aussi sur Radio Aioli à Avignon. Salut Avignon. Et on est rediffusé lundi matin sur Radio Galère à 7h30 à Marseille.
Et pour commencer, on va faire un retour rapide sur les élections pièges. Parce qu'on entend souvent dire que c'est la campagne qui vote RN. La géographie se mêle au résultat des élections législatives, je sais pas. En tout cas, dans mon quartier, c'est un élu RN qui a gagné. Donc quand on regarde les arrondissements de la ville de Marseille, c'est le centre de ville qui a voté NUPES. Du 1er au 6e arrondissement, les quartiers des riches ont voté Macronie du 7 au 9. Et quand on s'éloigne de la mer et du centre et que les petits quartiers pavillonnaires côtoient les hautes barres d'immeubles, ça a voté RN 10, 11, 13, 14, RN, RN, RN. Heureusement que les STAC et le 15e viennent fausser ce début d'analyse en ayant des élus NUPES. Bref. Dans tous les cas, trop de monde n'ont pas voté. Beaucoup de monde n'ont pas voté parce que ils pouvaient pas. Ils ont fait le choix de pas voter ou ils s'en foutaient. Et ce qui fait que ces élus sont pas si représentatifs que ça de la population. Mais c'est eux et elles qui décident maintenant.
Et alors cette semaine dans les infos choisies, on va vous donner des nouvelles depuis plusieurs frontières, des nouvelles aussi de Blanquer et de ses petits arrangements personnels. Et puis on va avoir une chronique livre. Et pour commencer, on va voir du côté du Conseil de l'État à la Noire.
Parce qu'il y a eu l'interdiction du port du burkini dans les piscines de Grenoble. Donc l'institution publique s'est prononcée pour la première fois dans le cadre d'un déféré laïcité. Nouvelle idée, le déféré laïcité. Et elle a été jugée que pour satisfaire une revendication religieuse, la ville a dérogé à la règle commune. Petit rappel, même si on en parle depuis plusieurs semaines, donc la mairie de Grenoble a souhaité modifier le code vestimentaire dans les piscines ce printemps pour y autoriser le burkini, donc un maillot de bain couvrant le corps et la tête, et le monokini, être torse nu pour les femmes et les hommes. Le nouveau règlement devait entrer en vigueur le 1er juin. Et donc là, le ministère de l'Intérieur, via la préfecture de l'Isère, ont déposé ce fameux déféré laïcité, une procédure ici de la loi contre le séparatisme. On adore toutes ces lois qui sont votées post-attentat et qui sont toujours plus sous le nom de laïcité pour empêcher les gens de faire des trucs. Et elle a permis ce référé laïcité au préfet de saisir le juge administratif d'un acte d'une collectivité locale jugé contraire au principe de laïcité. Donc voilà, ça a été confirmé ce mardi 21 juin, l'interdiction du burkini. C'est plié. Un nouvel exemple qui montre qu'au nom de la laïcité, les autorités empêchent des femmes d'accéder à des lieux publics.
Et on avait envie cette semaine pour continuer de vous donner des nouvelles d'une frontière, parce que la frontière, elle ne s'arrête pas. Et cette fois-ci, c'était la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, l'Espagne et le Maroc, ça fait des années qu'ils ont un gros sujet de tension. C'est le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est ce territoire au sud du Maroc qui a été d'abord occupé par l'Espagne et ensuite qui a été annexé par le Maroc. Et les Sahraouis, qui vivent au Sahara occidental, luttent pour leur indépendance depuis la fin des années 70. Le Sahara occidental, c'est un territoire qui est immense, avec plein de ressources naturelles, notamment avec beaucoup de phosphate. Et puis, c'est un gros territoire de pêche aussi, parce que toute la côte sahraoui, elle est vraiment pleine de poissons encore. Du coup, il y a vraiment des gros enjeux dessous. Et donc ça a fait tension entre l'Espagne et le Maroc. Alors l'ONU, à un moment, s'en est un peu mêlé. Il a demandé qu'il y ait un référendum sur l'indépendance sahraoui. C'était sans grande conviction, mais en tout cas, ce que ça faisait, c'est que ça reconnaissait au Sahara occidental le droit de tenir un référendum. Et donc, en clair, ça voulait dire que le Sahara occidental n'était pas un territoire marocain. Et puis là, en mars dernier, bim bam boum, l'Espagne reconnaît que le Sahara occidental est un territoire marocain. Du coup, un territoire autonome marocain, mais ça veut dire pas autodéterminé, ça veut dire marocain. Alors le Maroc a mis la pression grave sur l'Espagne, notamment en janvier, on en avait parlé aux infos choisies, le Maroc avait ouvert les grilles des frontières entre Ceuta et Melilla, et il y avait plein de gens qui s'étaient organisés pour passer à ce moment-là. Et voilà, donc l'Espagne a cédé à la pression, et ces petits jeux politiques, ils ont des conséquences sur beaucoup de vies. Parce qu'en fait, depuis que l'Espagne est allée dans le sens du Maroc, la police marocaine, elle s'en donne à cœur joie aux frontières, pour travailler dans le sens européen, comme ils disent, et renforcer la sécurisation de la frontière. Alors, depuis le 18 juin, il y a des affrontements hyper violents au nord du Maroc, entre les autorités marocaines et les personnes qui sont dans le mont Gourougou, en attendant de pouvoir traverser les clôtures de Ceuta. Parce que souvent, les personnes s'organisent en groupe pour passer de l'autre côté de la clôture. Et parce que, ces dernières semaines, les keufs marocains ont blessé une centaine de personnes. D'autres continuent à résister, d'autres décident de changer de route et d'aller plus au sud, dans le Sahara occidental. Et depuis quelques semaines, dans le Sahara occidental, y a aussi des vagues d'arrestations hyper fortes, notamment dans la ville de Laayoune, le point de départ vers les îles Canaries. Même raison qu'évoquée avant, faire le travail de militarisation de la frontière européenne. Alors aux infos choisies, on avait envie de relayer un appel à solidarité, parce qu'à Laayoune, il y a des camarades qui s'organisent pour monter une maison des migrants. Une maison des migrants pour accueillir les gens qui traversent, pour faire du soutien juridique, pour faire du soutien logistique, et aussi pour faire du soutien aux proches de celles et ceux qui disparaissent en mer. Du coup, si vous voulez en savoir plus, y a un lien, c'est sur Hello Asso, il y a une cagnotte. Hello Asso, soutenons les migrantes à Laayoune. Et n'hésitez pas à donner des sous si vous pouvez.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
Et donc on va vous lire un communiqué et un appel à soutien des occupantes d'un nouveau squat à la frontière franco-italienne. Presque un an après la dernière expulsion de la Casa Cantoniera de Clavière, nous sommes restés ici, dans cette vallée, sur cette frontière sanglante et raciste, près des personnes qui, chaque jour, la défient et la surmontent, bien qu'elles soient forcées de le faire illégalement, contrôlées, rejetées et violentées par l'État et ses forces armées. Dans cette même vallée où des milliers de migrantes avec de bons papiers, appelés touristes, transitent sans être dérangés dans la même vallée où seulement en janvier de cette année, la frontière a tué deux personnes, Fatala Belafif et Oula Rezouane.
À partir d'aujourd'hui, nous revenons nous organiser dans un lieu abandonné depuis des décennies qui n'appartient plus à personne, mais qui revit grâce à celles qui l'habitent, le construisent et l'autogèrent, en opposition à un et tous les états et lois qui veulent voir disparaître toute forme d'autonomie collective et individuelle. Nous avons continué et continuerons à nous battre en nous réappropriant et en construisant des espaces libres et inclusifs. Des lieux loin des dynamiques violentes, racistes et infantilisantes des institutions qui se manifestent à la frontière franco-italienne des Alpes occidentales, au refuge Massy à Oux, à la Croix-Rouge qui participe au refoulement en collaboration avec la police, et dans les appareils de contrôle et de répression italiens et français.
Nous sommes restés ici, en nous organisant sur cette frontière. Non pas pour faire du travail humanitaire et de l'aide sociale pour les migrantes, mais par choix politique, pour rester debout et lutter avec les personnes qui transitent par ces vallées. Aujourd'hui, de manière plus flagrante que jamais, nous assistons à une rationalisation de l'accueil et de la solidarité. Depuis le début de la guerre, des associations, des particuliers, des municipalités, des États, des médias grand public ont concentré des actions, du temps, des fonds pour les réfugiés ukrainiennes. Nous nous demandons donc si cette solidarité existe parce que les personnes en question sont blanches ou parce qu'elles sont chrétiennes. Nous luttons avec toute victime de la guerre et de l'impérialisme.
Il est évident que lutter contre des oppressions n'empêche pas d'en reproduire. Nous gardons en tête les violences survenues durant les autres occupations et voulons vivre dans un espace qui cherchera à déconstruire et à gérer la violence.
Ce nouveau refuge n'est pas né sur une terre stérile, mais dans le Val de Suse, qui résiste depuis des décennies par la lutte contre le projet honteux du TAV et son monde. Un monde d'industrie et de destruction du vivant, ce monde qui, toujours plus, pousse les personnes à l'exil.
Nous vous invitons à rejoindre la lutte. Dans tout le territoire, la frontière laisse ses traces. Dans tous les territoires, nous devons la combattre. Brûlons les frontières, freedom, ouria, liberté.
Voilà, c'est la fin de ce communiqué. Et maintenant, tu vas nous parler d'un blocage qu'il y a eu dans le port de Marseille.
Bah ouais, alors ça s'est passé mardi dernier. Non, n'importe quoi. Mardi 14 juin. Et il y a une cinquantaine de militants, militantes du collectif Stop Croisière qui ont bloqué l'entrée d'un énorme paquebot, Wonder of the Seas, pour son petit nom, dans le port de Marseille. Voilà, donc ils étaient sur une dizaine de canoës et elles ont réussi à empêcher le navire d'entrer au port pendant plusieurs heures. Deux très exactement. Alors l'idée c'était de bloquer le Wonder of the Seas parce que c'est un navire qui se préparait, je lis un extrait du communiqué, c'est un navire qui se préparait à entrer dans Marseille en polluant sans contrainte notre air, notre mer et notre vie. Ça faisait partie des revendications. Et puis aussi, on peut rappeler que les gros bateaux de croisière, c'est pas des bateaux qui sont pris par n'importe qui, c'est-à-dire qui sont plutôt utilisés par des personnes riches qui vont faire des vacances sur l'eau. Voilà, du coup, de montrer un petit peu que c'était important que tous les bateaux ne puissent pas comme ça circuler impunément dans les eaux. Et ça nous paraissait intéressant. Puis alors franchement, les photos du blocage en canoë, elles en jettent.
Ça fait trop du bien d'écouter Mascarade, un groupe de punk grenoblois. Voilà. Et alors maintenant, on va à l'université où Blanquer reprend les bancs.
Eh ben ouais, parce que figurez-vous que perdre des élections législatives, ça permet quoi? Ça permet d'obtenir un poste à l'université. Ça, c'est génial, c'est un petit coup de Blanquer. On adore. Donc, ancien ministre de l'Éducation nationale. On le sait, avoir des postes dans l'enseignement supérieur, c'est quand même un sacré parcours. On le sait, l'université a de moins en moins de moyens. Et là, il y a Blanquer qui se pointe et qui dit « Salut, j'étais un ministre de l'éducation dégueulasse. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour ouvrir encore plus le système scolaire français à la concurrence. J'ai dégradé autant que j'ai pu les conditions de scolarité des élèves, notamment des plus défavorisés avec mes réformes. J'ai méprisé les profs autant que j'ai pu. Est-ce que vous auriez pas un poste pour moi ? Aussi, j'ai perdu aux législatives. Alors, faut bien que je fasse quelque chose. » Et du coup, eh ben, Blanquer rentre à l'université de Paris 2 Panthéon à Sas. Alors ça, c'est il y a des petits hochements de tête en technique. C'est une université de droit et d'économie connue pour ses positions carrément réactionnaires. Voilà, et donc l'université Panthéon à Sas a exceptionnellement décidé d'ouvrir un poste sur mesure au sein du département de droit public, alors qu'il n'y avait eu aucun poste envisagé jusque-là. Voilà, on comprend bien que toutes celles et ceux qui ont vécu ces dernières années la dégradation des conditions d'enseignement et de recherche, qui ont fait grève, sont bien énervés. Voilà, parce que quand même, pour petit rappel, un des gros problèmes de l'université, c'est que il y a pas de poste et que du coup, il y a plein de vacataires et de contractuels précaires qui sont employés, sauf quand c'est un ancien ministre.
Les infos choisies vendredi.
Les
midi
infos
30.
Choisies vendredi.
Les
midi
infos
30.
Choisies vendredi midi 30.
Allez, après tout ça, on se fait un peu de bien. On va faire une petite chronique. Je vais faire une petite chronique littéraire et auditive sur les sons du quotidien. Et oui, parce que notre amie Juliette Vauclair a publié un nouveau livre, L'orchestration du quotidien, dont on vous recommande la lecture. Alors, petite historique de Juliette Vauclair. Dans un premier livre, elle a décortiqué le son comme usage policier et militaire. C'était le bouquin à la découverte en 2011, Le son comme arme. Ensuite, dans le deuxième, elle dissèque la manipulation sonore. C'était en 2017, le bouquin il s'appelle Contrôle. Avec son troisième, L'orchestration du quotidien, Design sonore et écoute au XXe siècle, qui est paru là en avril, elle nous plonge dans les mécanismes de création des sons qui nous entourent. Ici, elle s'intéresse à leur utilité sociale, à leur usage capitaliste ou encore au son de l'espace urbain. Car oui, le son a une histoire, des architectures, est pensé et construit par des designers. Les annonces dans les transports en commun, par exemple, ou les alertes de nos téléphones, les mélodies sirupeuses des habitacles des voitures dernier cri, ou tous les bruits de l'électroménager. Donc Juliette Vauclair lance dans une interview qu'elle vient de faire à CQFD, le design sonore rend désirable la malbouffe auditive. Et du coup, pour elle, je cite l'écoute critique. Donc l'écoute critique, pour elle, c'est un outil d'autodéfense efficient face à la multiplication des logos sonores. Quand on ne peut pas avoir de répit auditif, d'ailleurs accessible uniquement à l'espèce humaine et aux plus riches, il faut tenter de renverser l'écoute. En se plaçant dans une posture analytique, on peut accéder aux coulisses de l'espace public, du fabricant automobile, de la collectivité territoriale et de déceler leurs intentions. L'écoute devient donc consciente. J'aime aussi beaucoup les écoutes collectives, que ce soit dans l'espace public ou sur des enceintes. Cela permet de discuter, d'échanger et surtout de rompre avec les écoutes très individualisées que l'industrie audio nous propose majoritairement. Fin de la citation de Juliette Vauclair. Alors, pour finir ces infos choisies avant l'agenda, je vous propose maintenant une écoute collective, un épisode de la série Total Vocal sur Arte Radio. C'est une farce sonore réalisée par Nicolas Guadagno avec la voix des transports en commun marseillais qui nous permet une écoute consciente en s'amusant.
Sandwich Minute, bonjour. Choisissez votre sandwich. Sandwich au jambon. Veuillez confirmer. Merci. Veuillez à présent sélectionner votre pain. Pour du pain normal, tapez 1. Pour du pain sans gluten, tapez 2. Pour du pain complet protéiné, tapez 3. Pain normal. Veuillez confirmer. Merci. Veuillez à présent sélectionner votre beurre. Pour du beurre normal, tapez 1. Pour du beurre allégé extra fin, tapez 2. Pour du beurre anti-cholestérol, tapez 3. Beurre normal. Veuillez confirmer. Merci. Veuillez à présent sélectionner votre jambon. Pour du jambon blanc, tapez 1. Pour du jambon bio sans coane, tapez 2. Pour du jambon cuit à l'étouffée, tapez 3. Pour du jambon cuit sans lactosérum, tapez 4. Pour du jambon... Jambon blanc. Veuillez confirmer. Merci. Vous souhaitez des cornichons? Tapez 1. Vous ne souhaitez pas de cornichons? Tapez. Sans cornichons. Vous êtes sûr? C'est bon pourtant les cornichons. Moi, j'aime les cornichons. Dans mon sandwich, je mets toujours des cornichons. C'est dommage de pas prendre... Bravo. Très bon choix. Merci. Récapitulatif de votre commande. Vous avez commandé... Un cornichon. Votre commande est en préparation. Veuillez patienter. Désolé. Une erreur s'est produite. Retour au menu principal. Pour du pain normal, tapez 1. Pour du pain sans gluten, tapez aïe. Pour du pain de sel, oui. Pour du pain aromatisé, aïe. Sandwich minute.
Arte Radio. Point.
Vous souhaitez des cornichons?
Comme. Plus jamais de cornichons.
Ah, si, toujours des cornichons, mais plus de voix peut-être. Moins de voix robotisées autour de nous.
Merci pour ce beau morceau d'écoute. Et on arrive à la fin des infos choisies, mais avant ça, eh ben, on a un agenda. Alors, c'est un agenda qui est bien rempli et qui commence ce soir, donc à la DAR, ouais, à 19h. Ce soir, à la DAR, il y a un film Tourisme et expansion urbaine dans la péninsule du Yucatan, Maya Polis. Donc, ça dure une heure et ça parle d'une région du Mexique, donc la péninsule du Yucatan, qui est une grosse, grosse région touristique. Et une des villes de cette région, c'est Cancun. Et la mise en tourisme de cet endroit, évidemment, a des conséquences en termes d'urbanisation et en termes de dépossession, notamment des terres mayas. Voilà, donc Maya Polis, c'est le titre du film. C'est à la fois ce territoire indigène en cours de métropolisation et aussi c'est cet espace produit par l'économie touristique qui tourne autour des thématiques mayas. C'est comment les thématiques mayas sont reprises par l'économie touristique. Voilà. Et du coup, ben, ce film, il parle de ça et il est écrit à partir d'entretiens. Voilà, 19h à la DAR ce soir. Et puis demain, à la DAR toujours, de 18h à 20h, il y a une soirée d'infos sur les luttes à Bure, donc contre la poubelle nucléaire, suivie d'une soirée chantée. Et l'entrée est à prix libre.
Et moi, je vais vous donner trois événements qui sont dans le cadre du Festival des Fiertés. Donc, avant la Pride du 2 juillet 2022, il y a deux semaines de différents, on va dire, d'expositions, spectacles et différents événements. J'ai choisi de vous en relayer trois, mais vous pouvez aller voir sur le site, il y en a beaucoup plus. Donc, d'abord, un spectacle qui a lieu donc ce samedi 25 juin de 19h10. À 20h30, qui s'appelle Cœur Fugitif, suivi d'un dîner convivial et solidaire. Et en fait, c'est une performance et expérience scénique autour de l'œuvre de Pedro Lemembel, qui est un artiste, écrivain et militant politique chilien, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et du coup, il se crée une constellation vivante d'étreintes autour d'une œuvre puissante et transgressive, urgente à découvrir, qui écrit et interroge nos façons actuelles d'aimer et de lutter. Donc moi, je ne l'ai pas encore vu, mais ça fait très envie. Il faut s'inscrire, ça sera à Covelten, donc 16 rue Bernard Dubois, dans le premier. Et l'inscription, ça se fait à Krasna Studio, K-R-A-S-N-A-S Studio, @gmail.com. Sinon, il y a deux expositions, donc jusqu'au 26, donc dépêchez-vous, c'est dimanche, une exposition donc tous les jours de 14h à 20h sur les Sœurs de la perpétuelle indulgence, et c'est au 52 rue de la République dans le deuxième. Donc, qu'est-ce que c'est les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence? Elles écoutent les confessions, elles organisent des bénédictions, elles participent activement à la lutte contre le VIH et les IST et font la promotion de la santé sexuelle. Elles combattent toute forme de LGBTQIA-phobie, elles rappellent le devoir de mémoire par rapport au VIH, elles prônent l'amour, la joie et la fête, elles participent aux marches des fiertés. Elles participent à la recherche contre le VIH. Elles organisent des séjours de ressourcement et d'accueil de personnes affectées par cette maladie chronique. Et voilà, voilà une exposition sur elles, c'est chouette. Et du 24 juin au 3 juillet, de 9h à 18h, c'est une exposition, des expositions d'œuvres photographiques au musée Grobet-Labadier. C'est au 140 boulevard Longchamp, dans le premier arrondissement, et c'est les musées de Marseille qui présentent donc dans la cadre de la Pride l'œuvre culte de Other Side de l'artiste Nan Goldin, et c'est un ensemble de 174 diapositives réalisées entre 1972 et 1993 qui documentent la scène des ballrooms de plusieurs villes dans le monde, dont New York.
Waouh, ben merci, beau programme. Voilà, les infos choisies, c'est fini. Merci beaucoup à la technique.
Oui, merci. On se retrouve la semaine prochaine. On a un peu de temps, on peut dire qu'on peut balancer notre nouvelle adresse mail. Non, on la connaît pas.
On la connaît
Je
plus.
Crois que c'est infochoisie@radiogalere.org. Et donc, vous n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez nous faire des suggestions, des retours, des propositions d'interview, je ne sais pas.
Voilà. Et puis aussi, vous pouvez toujours réécouter les infos choisies sur le site de Radio Galère en podcast.
Ciao, ciao.
À la semaine prochaine.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.